Avant d'aborder la question de l'épître et de l'évangile, quelques mots sur le latin. En effet, vous l'aurez remarqué, c'est la langue principalement, pour ne pas dire essentiellement, utilisée lors de cette messe. Pour commencer, je souhaiterais laisser parler Saint François de Sales, évêque de Genève, qui disait ceci, en réponse aux velléités protestantes d'introduire notamment la langue, le vernaculaire, dans la scène. Mais de grâce, examinons sérieusement pourquoi on veut avoir le service divin en langue vulgaire. Est-ce pour y apprendre la doctrine ? Mais la doctrine ne peut s'y trouver à moins qu'on ait ouvert l'écorce de la lettre dans laquelle est contenue l'intelligence. La prédication sert à cela, puisque la parole de Dieu est non seulement prononcée, mais exposée par le pasteur. Nous ne devons en aucune façon réduire nos offices sacrés en langage particulier, car, comme notre Église universelle en temps et en lieu, elle doit aussi célébrer les offices publics en un langage qui soit universel en temps et en lieu. Le latin parmi nous est évident, le grec en Orient, et nos églises en conservent l'usage. La conformité et la grande étendue de notre sainte religion requièrent que nous disions nos prières publiques en un langage qui soit un et commun à toutes les nations. Nous avons ici résumé par saint François de Sales tous les arguments pour le latin dans la liturgie. Pour commencer, la nécessité d'une langue sacrée. Il n'y a pas de religion, aucune religion, qui ne fasse pas de distinction entre le sacré et le profane. Le sacré, je vous le rappelle, est précisément ce qui est consacré à Dieu, ce qui lui est réservé et, par voie de conséquence, ce qui est soustrait à l'usage profane. Le culte divin en particulier a ses lieux sacrés, ses rites sacrés, ses objets sacrés, ses ornements sacrés. Et la langue ne fait pas exception. Tout comme la religion révélée de l'Ancien Testament, les religions païennes ont eu le même comportement que, par la suite, l'Église catholique. Elles ont utilisé pour la liturgie une langue sacrée, retirée de l'usage profane, immuable. L'histoire des églises orientales qui ont, au début, maintenu l'usage de la langue vulgaire dans leur liturgie ne dément pas cette affirmation, bien au contraire, elle la confirme plutôt involontairement. En effet, sans avoir adopté comme l'Église de rite latin le principe de la langue sacrée dans ses débuts, les églises orientales ont subi le même phénomène universel de sacralisation de la langue liturgique. Les langues coptes, arméniennes, éthiopiennes, slavones ont à peine senti le contact des mystères de l'autel qu'elles deviennent immobiles et impérissables. C'est pourquoi même les églises orientales célèbrent tout aussi bien que nous le service divin dans une langue qui n'est plus entendue du peuple. Au contact de l'autel, ces langues se sont sacralisées. Il faut une langue universelle pour l'Église universelle. Rappelons-le avec force, l'Église est par nature, par essence, universelle. Son universalité n'est pas purement géographique. Cette universalité dérive de sa vocation. Tous les hommes sont appelés à faire partie de l'Église catholique. Et cette universalité dérive de son lien avec le Christ qui lie et rassemble en lui tout le genre humain. Il faut donc à l'Église, et en particulier à son culte, une langue qui soit universelle. Une langue une pour une Église une. L'Église est une, c'est ce que nous professons, ce que nous proclamons dans le Credo. Et cette unité est étroitement liée à son universalité. Par conséquent, la langue latine contribue, garantit l'unité par son côté universel et romain. Elle est ce lien d'unité. Une langue immuable pour une Église immuable. Pie XI disait, en effet, l'Église, embrassant en son sein toutes les nations et étant destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, exige de par sa nature une langue universelle, immuable, non populaire. Le latin, spécialement le latin liturgique, est précisément une langue aussi immuable que possible. Il participe de l'éternité de l'Église, de l'irréformabilité de son enseignement. Il présente également un double avantage pratique. Le premier, éviter les continuelles révisions indispensables aux langues vivantes. Le second, beaucoup plus important et signalé par Pie XII, l'usage de la langue latine est un antidote efficace contre toute corruption de la pure doctrine. Car comme le proverbe nous le rappelle, traduire, c'est trahir. Toute traduction est une forme de trahison, même involontaire. Mais alors, à tous ces points, on nous objectera tout de même que si la messe est dite en latin, le peuple ne comprendra rien. En réalité, le problème ne réside pas dans le dilemme entendre ou ne pas entendre, comprendre ou ne pas comprendre, d'autant plus que dans les missels des fidèles, les traductions résolvent suffisamment le problème, mais il réside plutôt dans la conception que nous pouvons avoir de la messe. Et pour l'Église catholique, la messe, bien que comprenant un aspect instructif, est essentiellement le renouvellement non sanglant du sacrifice de notre Seigneur au calvaire. Est essentiellement le saint sacrifice offert à Dieu sur l'autel. Et étant offert à Dieu, il n'exige pas de soi d'être toujours et de façon prioritaire audible et accessible aux fidèles. Don Guéranger disait « Il est nécessaire de faire ici une distinction capitale, la distinction de la chair et de l'autel. » Dans la chair, la langue vulgaire est indispensable. À l'autel, on peut s'en passer. Car la mission de l'Église n'est pas uniquement d'instruire le peuple qui l'écoute. Si elle lui révèle les vérités divines, c'est afin de l'unir à Dieu par les mystères de l'autel. Après avoir éclairé sa foi, elle le met en communication avec Dieu par l'amour. Quand elle a fait naître en lui le désir du bien infini, en présence duquel il n'y a plus ni savant ni ignorant, elle remonte, comme Moïse sur la montagne, et sa voix cesse de se faire entendre aux oreilles pour ne plus retentir que dans les cœurs.